Alors, bon matin à tous. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible, à aller dans le livre de Job et le chapitre 40. Est-ce que vous avez des bestioles ou des animaux avec lesquels vous avez une relation difficile, qui vous font peur viscéralement? Il y en a qui ont des animaux en particulier que vous avez des peurs avec? Quelques-uns? Personne? Non, je vous crois pas. Je suis sûr qu'il y a des bébites qui vous font peur. Il y en a certainement dans une salle comme nous autres, statistiquement, là, qu'ils font « Chérie, tu peux-tu tuer l'araignée, s'il vous plaît? » Puis c'est le monsieur qui dit ça. Je suis sûr. Statistiquement, là, c'est indéniable. Il y en a qui rient parce qu'ils veulent pas trahir quelqu'un, mais on sait ce que vous voulez dire. Hein? Oui, je veux pas... Il y en a qui pointent, qui font des affaires de même. Hein? Moi, je pense que j'ai plus peur des serpents que je veux me l'avouer. Un soir, je regardais des YouTube il y a quelques années en arrière. Puis, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça avant de se coucher. Hein? C'est pas une bonne idée. Puis là, je regardais des YouTube de des gros boas qu'ils trouvaient, puis comment qu'ils les pognaient, puis les dents, comment c'est dangereux, puis avec la grosseur, puis tout ça. Et au milieu de la nuit, ma femme me trouvait en train de sauter sur ses pieds pour pogner ses pieds. Et là, elle m'a défendu de regarder des vidéos comme ça avant de me coucher. J'ai plus le droit. Parce que je suis dangereux. Il y a 2 ans, je dois vous confesser même que j'étais tellement agité dans mon lit. Des fois, tu as des draps, tu sais, sur toi, puis là, tu bouges dans le lit. Fait que, tu sais, c'est pas pire si tu donnes des coups de pied de l'autre côté vers ton conjoint, ta conjointe, tu sais, parce que là, les draps, arrête, tu sais. Vous avez juste senti dans des rêves, hein? Vous donnez des coups, mais on dirait que ça marche pas bien. Vous avez déjà vécu ça? Mais là, j'avais pas de draps il y a 2 ans. Puis j'étais tourné vers la commode. Le reste de l'histoire, ben, c'est que j'ai boité pendant 2 jours. Et ma femme a dit, merci Seigneur que j'étais pas de ce côté-là. Parce que j'ai eu mal aux pieds, je me suis réveillé. Ma femme a ri de moi, parce qu'évidemment, là, elle s'est dit, enfin, c'est lui qui se fait mal au lieu de me donner des coups de mon côté. Hein? Mais il y a des animaux qui nous font mal, qui nous font peur, excusez-moi. Je suis poigné encore sur mon mal de pied, là. Plus qu'on voudrait le croire, il y a ces animaux-là qui nous font extrêmement peur, qui nous intimident, et Dieu va faire ça aujourd'hui dans le livre de Job. Il va utiliser 2 animaux pour faire une leçon d'objet. Il en a déjà parlé de quelques animaux, une douzaine d'animaux qu'il a mentionnés, certains qu'il a mentionnés de passage, d'autres qu'il a décrits, pour apprendre des choses de la part du Créateur sur ces animaux-là, pour montrer à Job que tu sais pas vraiment comment ça fonctionne, toute ma création. Mais là, il va en prendre 2 vraiment plus gros, plus intimidants, qui font peur, qui sont supposés nous apprendre une leçon importante. Et aussi, je dois vous dire que le ton qu'on va regarder dans ce texte, c'est un ton paternel. C'est-à-dire que c'est le Papa Céleste ici qui parle. C'est le Créateur, mais c'est aussi le Papa Céleste qui parle à Job pour lui apprendre une leçon. Il veut lui montrer quelque chose. Job sait beaucoup de choses sur son Père Céleste. Il a montré aussi beaucoup d'allégeance. Mais aussi, on a vu en cours de route, qu'il a commencé en cours de route de trouver ça dur, de subir l'injustice, d'être jugé comme étant fautif dans son épreuve, comme s'il le méritait. Et à un moment donné, ben, il s'est enlisé à faire des récriminations, à demander à Dieu comment ça, c'est pas juste, mais semble que, puis il a traversé la ligne à un moment donné. Et Dieu le reprend ici. Mais il y a un ton paternel de la part du Créateur qui veut apprendre une leçon. Et c'est ce qu'on a aussi, un ton paternel. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste est tout-puissant, sage, etc. Mais c'est pas facile, les leçons paternelles. Je me rappelle un de mes fils, bon, j'ai 5 fils, fait que vous pourrez pas savoir c'est lequel de toute façon, là. Mais un de mes fils travaillait, puis il trouvait pas ça vraiment important d'arriver en temps au travail. Puis quand j'ai dit, voyons, garçon, tu vas arriver en temps, il va être frustré. Ben non, le boss, il a juste fait une joke sur mon retard. Ça n'a pas l'air d'être dérangé. Je dis, non, c'est du sarcasme, mon homme. Tu comprends pas, là. À un moment donné, il va juste te donner ton bleu. Hein? Il va te mettre à la porte. Il t'avertit, puis tu le prends à la légère. Je te dis, non, c'est toi le père qui prend ça plus important. Parce que pour toi, c'est important. Là, c'était moi qui étais démesuré. Puis évidemment, même lorsqu'un père fait un conseil de bon sens, des fois, les fils, les filles trouvent qu'on exagère. Vous avez déjà vu ça? Hein, je vois plein de parents découragés comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez. Découragez-vous pas. On vit toutes la même chose. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que le Père Céleste vit la même affaire. Au moins, nous, on est des pécheurs. Tu sais, on se dit, ils ne peuvent pas nous faire confiance. Maintenant, on s'est choqué. On a dit une parole trop vite. On a dit quelque chose à travers notre chapeau. Tu sais. Mais le Père Céleste, lui, il ne se trompe pas. Mais devinez ce qui est arrivé avec mon fils. Il a perdu sa job. Pas une fois. Trois fois. L'apprentissage était long. Mais il n'arrivait pas à reconnaître que dans les paroles que j'avais, il y avait une sagesse de père, d'expérience de vie. Hein? C'était du gros bon sens. Il dit, ben, les gens, des fois, ils sont pas aussi honnêtes avec toi, ils minimisent, ils font des jokes, ils espèrent que tu vas comprendre. Mais, tu sais, fiston, il est en train de dire que ça tape ses nerfs, tu sais. Il comprenait pas la subtilité. Il fallait que ça s'aille. Et à plusieurs occasions. Mais je me dis, vous savez, ça, c'est un père terrestre. Nous, on vit la même chose envers un père céleste parfait. C'est encore pire, me semble. Hein? Quel défi. On a de la misère, tout comme avec nos pères, de faire confiance au Père céleste qui nous donne des leçons. Et ici, il va donner des leçons vraiment, vraiment importantes à partir de deux animaux en particulier, mais il fait un petit préambule qui donne le ton ici à ce qu'il veut nous enseigner. Et je vous avertis ce matin, je risque de vous sortir votre zone confortable là, ce matin. Et la leçon, Dieu le fait aussi de manière très inconfortable. Alors, je vais peut-être vous rendre inconfortable, mais écoutez-moi jusqu'au bout avant de me tirer des roches, OK? Et après, on pourra avoir une lapidation en règle à la fin pour ceux qui sont convaincus qu'on doit le maintenir, OK? On ne devrait pas se rendre, j'espère, par la grâce de Dieu si l'Esprit de Dieu est parmi nous. On va lire quelques versets. Et après soi, on va se lancer, OK? Chapitre 40, qui commence comme ceci. Des fois, dans vos versions, il peut y avoir des différentes versions qui ne commencent pas à la même endroit parce que les versets sont décalés. C'est le même contenu, mais ici, on commence au verset 1 du chapitre 40 dans ma version. C'est « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête ». Alors, il y avait une tempête qui a été mentionnée. Dieu a parlé déjà. On l'a vu il y a deux semaines. Et là, il continue son discours après une première étape où ce que Job dit, « OK, je parlerai plus ». J'ai compris, Seigneur, il vient de le dire dans les versets précédents, à la fin du chapitre, et il dit, je parlerai plus, c'est comme, j'ai compris déjà une partie de la leçon, mais il s'est pas encore repenti, Job. Et Dieu sait qu'il doit aller encore un pas plus loin pour faire saisir pleinement à Job ici qu'il y a même une étape de repentance qu'il doit avoir face à son attitude envers Dieu qu'il avait eue. Et donc, Dieu, il parle de la tempête. Il dit, saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quand un père commence à dire ça, ça va pas bien. Et quand le Créateur le dit, c'est pire encore. Attache ta tuque, en bon québécois. OK? Ici, c'est attache ta robe là, pour que tu puisses travailler. Lève ta jupe là, pour pas t'enfarger dans le combat ou dans le travail qu'on va aller, tu vas aller faire parce que là, on va te faire travailler, mon homme. Là. OK? Il dit, je vais t'interroger puisque tu as l'air d'avoir les réponses puis tu as des conseils à me donner. Oh, Job, et tu vas m'instruire. Alors, j'en ai des questions pour toi. Il avait déjà commencé avec une bonne quarantaine. Il y en a une autre quarantaine ici, selon les versions de questions qu'il va lui poser. Anéantiras-tu jusque ma justice? Et là, on voit ici l'enjeu de la justice qui est mentionné. Tu vas-tu jusque t'attaquer puis tasser ma justice pour la rectifier, la rendre mieux, ma justice? Me condamneras-tu pour te donner le droit? Et le mot condamner ici, c'est, est-ce que tu vas prononcer que je suis méchant? C'est littéralement le mot méchant, mais en verbe ici, qui est là ici. Est-ce que tu vas me condamner comme coupable, comme méchant? Pour que toi, ton droit soit élevé? Et là, on voit ici l'enjeu. C'est ça le cœur de ce que Dieu est en train de reprocher à Job. Tu questionnes ma justice, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. Revête-toi de splendeur et de gloire. Rends les flots de ta colère. Répands les flots de ta colère. Et d'un regard, abaisse les hautains. Et c'est ce que Dieu fait. Capable d'abaisser le regard des plus hautains par sa parole. Il dit, toi, fais-les donc voir. D'un regard, humilie les hautains. Écrase sur place les méchants. Cache-les tout ensemble dans la poussière. Enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Prions le Seigneur. Béni, Seigneur, soit ta parole dans nos cœurs. Enseigne-nous ce matin. Accorde-moi ta plénitude de ton esprit pour partager ta parole. De partager, Seigneur, ce que tu m'as montré et que, Seigneur, ton esprit nous parle de différentes façons. À travers tout ce que j'ai pu préparer, Seigneur, bien au-delà de ça, tu veux nous parler par des détails qu'on ne soupçonne même pas. Rends nos cœurs disposés au Éternel, enseignables, attentifs à ta parole. Et on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Dans le deuxième discours, le Seigneur ici relate les puissances de Dieu et met Job au défi de montrer ses propres prouesses. Tu veux me reprendre? Tu veux me dire comment faire les choses? Vas-y donc, fais-les toi tout ça. Mets en ordre les injustes. Condamne ceux qui sont coupables. Vas-y, je te regarde aller. Et là, ici, il va utiliser, après ces quelques versets-là, deux bêtes en particulier qu'on appelle et qu'il nomme Béhémoth et Léviathan. Pour lui enseigner la leçon, à savoir, écoute, tu veux me dire quoi faire? Gère ces deux animaux-là. Montre-moi comment tu es vraiment au contrôle, puis maîtrise ces animaux-là, puis on verra ce qu'on a à dire après. Il met au défi parce qu'il questionne la justice de Dieu, et c'est sur ce point-là en particulier, maintenant, que Dieu vient cogner dessus. Tu questionnes ma justice. Et soyons pas trop durs avec Job. Parce qu'il est si facile pour chacun d'entre nous, lorsqu'on vit quelque chose de difficile, qu'on se sent à bout, de dire, « Hey Seigneur, quand est-ce que tu vas me donner un break, là? Tu me lâcherais-tu un bout de temps, s'il vous plaît? » Comme si Dieu exagérait, comme si Dieu était injuste. Par plusieurs de nos propos, il est facile lorsqu'on est à bout, qu'on est épuisé, qu'on se sent incompris, qu'on se sent seul dans notre maladie, dans nos limitations humaines, dans nos luttes avec la santé mentale, dans nos luttes avec une relation brisée qui n'arrive pas à se réparer, dans une lutte parce qu'on m'a blessé dans le passé, j'arrive pas à guérir de cet abus, de cette parole, de cet événement, de ce traumatisme, ça a de l'effet sur moi. Et là, je commence à me questionner si c'est juste tout ça ce qui se passe, que Dieu y exagère peut-être pas un peu. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Quelques têtes? Les autres, ça vous est jamais arrivé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile pour nous, subtilement, de questionner la justice de Dieu. Et que peut-être il permet des choses excessives sur moi. Et d'en arriver à la même place que Job. De questionner que peut-être on aurait quelques bons conseils à faire à Dieu pour améliorer le monde. On n'oserait pas le dire comme ça. Mais des fois, en blague, dans ma famille, on se ramasse des fois deux, trois gars ensemble ou quelques hommes ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'on fait, hein? Les hommes, des fois, on se met ensemble, là, on parle des problèmes. Ah oui, s'ils faisaient ça se réglerait. Puis nous, on met trois, quatre hommes ensemble. Là. C'est fou comment les problèmes du monde se règlent. C'est fou. Trois, quatre hommes ensemble, on va venir, les femmes, vous avez réglé les problèmes du monde. Oui, on a tout réglé ça, chérie. C'est fini. Ça fait partie de notre arrogance humaine de penser qu'on peut régler les choses, mettre quelques-uns ensemble intelligents, qu'on a quelques bons conseils à Dieu. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on met en doute le jugement de Dieu. On met en doute sa droiture, sa pleine justice, qui sait exactement ce qu'il fait dans ce monde chaotique de pécheurs. Et donc, on pourrait tous se retrouver là n'importe quand, assez facilement, avec Job, et que Dieu reprend ici. Un auteur que j'apprécie résume les chapitres suivants comme ceci. Il dit, « Peux-tu expliquer ma création, chapitre 38, Job? » Chapitre 39, « Peux-tu surveiller ma création? » Chapitre 40-41, « Peux-tu soumettre ma création? » En parlant de ces deux grandes bêtes, il dit, « Correct, mets en ordre le monde du mal, puis gère ces deux animaux-là, on va jaser après. » Puis évidemment, ben, si tu comprends bien ce que ça veut dire, c'est que tu n'iras pas très, très loin. Hein? L'auteur, en regardant ceci, un psychologue suisse, Dr. Paul Tournier, dans un livre sur la grâce et la culpabilité, dit ceci au sujet de la rencontre de Job avec Dieu. C'est assez intéressant et si simple. Voici. La réponse de Dieu n'est pas une idée. Ce n'est pas une proposition comme une sorte de conclusion à un théorème. C'est lui-même. Il s'est révélé lui-même à Job et Job a trouvé un contact personnel avec Dieu et c'est de rencontrer Dieu lui-même, de saisir Dieu lui-même, de voir sa grandeur qui est la réponse à ses préoccupations. Que Dieu nous accorde ce matin de voir sa grandeur, son amour, sa bonté, sa toute justice. Comme pour le début du premier discours, qu'on a vu au chapitre 38. Ce deuxième discours commence ici avec Job en lui donnant un défi. « Je vais t'interroger, tu vas m'instruire, prépare-toi, tu vas devoir réagir. » Et là, il fait des reproches, et son reproche est au fait, il dit « Tu penses être capable de me dire quoi faire, tu penses avoir le bras long comme Dieu, et tu penses me donner des discours sur le méchant et sur le juste, et sur comment mettre de l'ordre dans tout ça. » Et il le met au défi. Et c'est le même ton qui se retrouvait dans le premier discours, aussi avant qu'il s'embarque dans tous ses enseignements sur la création inanimée, l'espace, etc., et sur des créations animées, et de voir comment il sait si peu, et que c'est le Créateur qui est en mesure de tout comprendre cela. Un auteur que j'apprécie bien, M. Zuck, dit ceci, « Faire face à Dieu suggère que l'on prétend être son égal. » Et c'est ce qu'il dit, « Fais-moi face, Job. » Parce que Job voulait être en cour devant lui. Il dit, « Fais-moi face. » Mais c'est de prétendre d'être son égal. Ce qui n'est vrai de personne. Job n'avait ni le bras long comme celui de Dieu, ni puissant comme lui, et encore moins ainsi avec sa main droite, ni la capacité d'effrayer par sa voix, par le tonnerre comme Dieu pouvait le faire, n'ayant pas comme Dieu les moyens de gouverner le monde et de rectifier ses injustices, de quel droit Job pouvait-il critiquer Dieu? Si les accusations porté par Job contre Dieu souverain, devait être accepté. Alors, Job devait d'abord prouver sa propre capacité de gouverner et d'être gouverneur de ce monde impie et des injustices. Dieu suggéra avec ironie de remettre cette responsabilité à Job pour voir ce qu'il pourrait faire et s'il serait capable de le remplir. Et c'est seulement Job, si Job pouvait mener à bien une tâche ainsi redoutable que Dieu rendrait hommage à l'indépendance et à l'autosuffisance du plaintif en cours de Job, ainsi qu'à la validité de ses critiques. Quel défi, n'est-ce pas? Et Job se trouve dans cette situation-là, dans la position d'être l'autain qui va être humilié par Dieu, tout comme naturellement nous sommes. Et vous savez, je vais juste faire deux remarques ici avant d'aller plus loin. Ça me fait penser au fait que, vous savez, on fait souvent le ménage de nos maisons. Je vais préciser ça. Nos femmes nous aident souvent à faire le ménage de nos maisons avant qu'on fasse la visite. Et les femmes disent, pas convaincues. Peut-être parce que vous êtes trop découragées d'avoir essayé de nous faire du ménage, n'est-ce pas? Et on se dit tout le temps, on va tout nettoyer parce qu'on se dit, ils vont voir la chose que j'ai pas nettoyée. N'est-ce pas? On a peur que ça c'est la place qu'on n'a pas nettoyée, ils vont finalement l'utiliser. L'endroit qu'on a oublié d'épousseter sur un cadre qui va être vu. Et là, c'est la paranoïa de tout nettoyer parce qu'on sait que l'être humain est comme ça, est porté à regarder vers l'exception, vers la chose qui ne fit pas, vers la petite affaire négative, n'est-ce pas? Et on fait la même chose avec Dieu. On est porté à regarder les choses que Dieu semble à nos yeux ne pas bien faire, les injustices. Mes prières non répondues, les gardes, plutôt que de voir toutes les choses que Dieu fait, qui sont majoritaires, là, qui sont de grâce et de bonté envers nous, on est aussi comme ça en train de regarder, comme avec la poussière dans la maison, le ménage qu'on fait, de regarder ces petites affaires-là. Et qu'on, évidemment, qu'on essaie d'éviter le maximum, personne ne peut faire ça, il y a toujours quelque chose. Vous savez, Dieu est parfait, mais on a un œil imparfait, et on regarde un Dieu parfait dont le ménage est parfait, mais qui s'occupe d'un ménage dans un monde imparfait. Et notre regard, biaisé, limité, voit que les choses qui accrochent dans notre esprit, qui viennent tout à coup mettre un « voyons, ça a de l'air pas correct, oui, ça a de l'air. » Les amis, il y a beaucoup de ça de l'air. Il y en a beaucoup de ça de l'air, un peu partout autour de nous. Et ça trompe les yeux, et vous savez, Satan s'amuse à ce qu'on exploite le ça de l'air. On dirait que, je me sens que, pourquoi? Parce que Satan est le maître chuchoteur à semer des doutes dans notre esprit. Et il s'attaque toujours à quoi? Le doute que Dieu est bon. Le doute que Dieu, il ne veut pas me priver de des bonnes choses. Le doute que Dieu fait ça pour mon bien parce qu'il m'aime. Et non pour me brimer, m'empêcher de vivre des choses. Mais l'ennemi, lui, sème toujours cette idée-là de la bonté de Dieu. Que peut-être on s'en sortirait bien sans lui. Que même peut-être, si on faisait ça, on pourrait être comme lui-même. Et c'est ce que la prétention de la religion est, n'est-ce pas? Que si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu peux être finalement gagner ton ciel, être comme Dieu, si tu gagnes ton ciel, devenir parfait. ou par les réincarnations, ou par toutes sortes de moyens religieux. Quel mensonge! Et au bout du compte, vous savez, il faut se rappeler, se rendre compte que c'est lui qui décide des règles du jeu. J'ai entendu l'histoire d'un jeune homme qui achalait pas mal un arbitre au baseball. C'était ce qu'on appelle évidemment le receveur, le catcher. Puis il était chialeux, puis l'arbitre était en arrière, faisait trois manches qui enduraient, le gars en avant qui chialait, il collait les prises puis les balles lui-même, tu sais, pour prendre évidemment l'arbitre, à pas savoir ce qu'il faisait. Et à un moment donné, dans un journal, Guthrie, l'arbitre en question, Bill Guthrie, raconte ce qu'il a dit après ça. Après trois manches, la quatrième manche, quand le receveur a recommencé à se plaindre, il a dit, « Écoutez, jeune homme, vous m'avez donné un fier coup de main à annoncer les balles et les prises, et je l'apprécie beaucoup. Alors, je vais vous demander d'aller à la salle des joueurs et de maintenant aller prendre une douche. » C'est Dieu notre arbitre, vous savez. On voudrait en caler bien des balles, puis des prises, puis des shots. Mais c'est lui l'arbitre. À la fin de compte, c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est un arbitre parfait, contrairement à tout arbitre humain qu'on aurait. Et c'est lui qui cale les shots. Après avoir écouté les objections de Dieu, le Seigneur se mit à parler au milieu de la tempête et soudain, la juste perspective des choses fut rétablie. Aux yeux du patriarche. Dieu usa de douleur avec Job, mais il fut également ferme et direct. Le Seigneur lui posa le genre de questions qui remettent l'homme fini à ses justes dimensions. Que le Seigneur nous accorde d'arriver à la même endroit avec lui. Je vous lis maintenant les quelques prochains versets. En vous rappelant où est-ce qu'on est, hein, on est en train de couvrir ces derniers instants du livre, les derniers cinq chapitres, et on regarde ici ce discours de quatre chapitres où ce que l'Éternel interroge Job avant d'arriver au mot de conclusion et sa confession. Et on regarde ces grands enjeux qu'on a regardés la semaine dernière, ces questions importantes. Dieu veut te faire réfléchir à travers des questions. Il veut nous faire réfléchir à travers des questions. Et les questions qu'il te pose à toi vont être un peu différentes de l'autre. Et c'est à nous maintenant d'être à l'écoute. Seigneur, c'est quoi les questions que tu veux que je me pose pour moi dans ma vie, que je te pose, que je te lance ces mêmes affronts-là, peut-être sur un sujet différent, mais que je lutte avec. Dieu doit-il te rendre des comptes? C'est la question qu'on se pose aussi. Est-ce que Dieu nous doit des comptes dans tout ce qu'il fait expliquer? S'il ne nous l'explique pas, bien là, ce n'est pas correct, on peut douter de lui. Est-ce qu'il nous doit des explications à tout ce qu'il fait? Dieu mérite-t-il ma confiance entière en absence d'explication? C'est-tu assez qu'il soit juste Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, mon Père Céleste? Ou est-ce qu'il me doit des explications quand c'est dur dans mon couple? Quand j'ai une perte au travail d'un emploi? Quand mon enfant a eu un accident? Quand que tout à coup, dans une église, il y a une crise, puis j'en pâtis. Quand tout à coup, il y a des gens autour de moi qui me déçoivent, qu'on parle dans mon dos comme juge. Est-ce que chaque fois, Dieu me doit des explications dans toutes ces choses difficiles? Pourquoi l'homme demande-t-il à Dieu de lui rendre des comptes? Et c'est surtout là qu'on est, dans ces derniers deux chapitres. Et la réponse est assez simple. C'est notre arrogance. C'est notre arrogance humaine. Quand il parle des hautains qui vont être abaissés, c'est de nous. Notre défi d'oser mettre en doute Dieu est facilement tomber dans l'arrogance. C'est notre défi. Donc, les grandes questions qu'on adresse ici dans ces deux chapitres. Et là, on est au deuxième discours. Et là, ici, il touche l'attitude arrogante, naturelle de l'humain. Et là, maintenant, on va regarder deux bêtes. Et on va lire ça ensemble. Béhémoth, le chef-d'œuvre de Dieu, et peux-tu attraper Léviathan et le dompter? Lisons ça ensemble à partir du verset 10. Voici Béhémoth. Et là, il y en a qui me regardent, ben moi, c'est écrit hippopotame. Ou peut-être il y en a un éléphant, ou peut-être il y en a une petite note. Hein? Y a-t-il des petites notes, vous autres, hein? Des fois qui pointent vers un mot à côté là, pour dire quelque chose? Les versions sont vraiment embêtés sur comment traduire ce mot-là. Et à travers les 200 dernières années, plus particulièrement. Mais le mot qui est là, c'est Béhémoth. Et par souci de simplicité pour ne pas interpréter, beaucoup de personnes ont décidé de mettre juste « voici Béhémoth ». On ne sait pas c'est quoi, mais c'est ça le mot qui est là. Au lieu de l'interpréter, de mettre « hippopotame, éléphant, ou crocodile » ou ce que tu voudras, ben il y en a qui vont juste mettre le mot d'origine puis nous laisser à nous de juger quel est cet animal-là. Mais certains vont retrouver le mot hippopotame ici. Le mot behemoth veut simplement dire, c'est le mot bête au pluriel, comme plusieurs bêtes, mais on comprend ici qu'il n'y a pas plusieurs bêtes. Donc, c'est une bête grande et même la traduction Tob, par exemple, a décidé de traduire, voici le bestial. J'haïs pas la traduction qui est plus proche de l'original et qui ne prend pas position sur c'est quoi, mais c'est une bête végétarienne, le bestial qui est immense, il semblerait. Voici ce qu'on dit d'elle. Voici Behemoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. OK, fait que c'est une créature, notez ici, créée par Dieu comme Job, au même titre que nous. Donc, on comprend ici en partant que, est-ce que c'est un animal mythique? Non, il l'a créé. Si on tombe dans l'animal mythique, il ne l'a pas créé, c'est un imaginaire. Tu sais. Il mange de l'herbe comme le bœuf, donc il est herbivore. Et voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Si vous avez peut-être hippopotame ici, vous dites, ben, jusqu'ici, ça va quand même assez bien. On dit, il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Bon, là, peut-être que vous avez déjà vu le cèdre du Liban, hein? On le retrouve, c'est les pièces de monnaie du Liban. Le cèdre du Liban est légendaire. Ici, on parle du cèdre. Comme un cèdre, quand il met sa queue ferme, c'est comme un cèdre. Ben là, tout à coup, quand tu regardes le train arrière d'un hippopotame puis de l'éléphant, genre, ça marche pas bien, la petite baguette en arrière là, qui swing comme ça. Là. C'est plus comme une vache. Là. C'est pas bien gros, là. Et on dit, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, donc des jambes excessivement musclées et fortes. Ses os comme des tubes d'airain. Et ses membres sont comme des barres de fer. Donc, on parle d'un animal massif dont les ossements sont excessivement forts et grands. Et là, il va dire ici la raison pourquoi il utilise cet animal. Il dit, c'est le premier des œuvres de Dieu, ou la tête, littéralement. C'est le mot quand on parle de la tête d'une montagne, le pic, on va dire la tête. Donc, c'est le plus haut, c'est comme le chef-d'œuvre. C'est le top en termes de grosseur des créatures de Dieu. Tout à coup, j'ai un malaise avec hippopotame. Mais ça ne marche pas, là, tout à fait. Là. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par glaive? Beaucoup d'interprétations, je ne veux pas aller trop loin avec ça. Il trouve sa pâture dans les montagnes, OK? Et il ébat toutes les... s'ébat toutes les bêtes des champs. Et là, ça correspond ici avec l'animal herbivore qui peut cohabiter avec des animaux des champs. Il se couche sous les lotus. Donc, il peut aller dans les montagnes, mais aussi il se trouve dans les rivières, dans les lacs, sur le bord des rivières où il y a des feuilles de lotus, là, des rivières qui se nourrissent de plantes sur le bord de l'eau, au milieu des roseaux et des marais. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent, que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas. Si un fleuve, là, tu sais, en début de saison, là, quand les fleuves sont, les rivières sont plus hautes parce que là, il y a la fonte des neiges, il y a une crue des eaux, lui, il bouge pas. Que le fleuve vienne à déborder, il s'enfuit pas. Il est tellement gros, costaud et fort que le courant ne l'emporte pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Le Jourdain, quand il était fort, personne ne traversait là. Puis c'est pas le Jourdain d'aujourd'hui là, qui a un barrage en haut sur la Galilée, puis que finalement, c'est un petit cric là, qui traverse. Là. C'est pas grand-chose maintenant. Les peuples d'Israël ne pouvaient pas. Il fallait qu'il y ait une intervention divine pour arrêter l'eau, pour faire traverser Israël, si vous vous rappelez, dans Josué, n'est-ce pas? Il dit, lui, il reste là à la crue des eaux, puis il ne bougera pas, tellement qu'il est gros et massif. Ça ne fit pas ici avec l'interprétation que certains aiment. Est-ce à force ouverte, qu'on pourra le saisir? Tu vas être capable de l'attraper? Juste vous rappeler ici qu'on a ces animaux-là, les hippopotames, on les a dans les zoos en général. Hein? Est-ce qu'il y a un moyen de filet que tu vas percer son nez? Peux-tu l'attraper puis le maîtriser? Peux-tu le mettre dans une cage, Job? Il est en train de dire, cet animal-là, il dépasse de pas mal. Là. Il est gros, il est fort. Il a de l'air impossible à prendre pour l'être humain. Mais qu'est-ce que cet animal? Et là, ensuite, on dit, verset 20. Est-ce que tu vas attraper ou prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Encore là, ici, le mot crocodile n'est pas dans le texte hébreu. C'est le mot Léviathan. Mais qu'est-ce que Léviathan? Ben là, certains vont l'interpréter comme étant le crocodile égyptien. Un immense crocodile de l'époque. Vous savez que dans la jungle, au milieu du Congo, dans le plus grand marécage du monde, au milieu du Congo, certains viennent ici du Congo, savent de quoi je parle. Ici, le plus grand marécage du monde qui peut être aussi gros qu'un État américain. Okay? Il y a des hommes qui ont été dans les années 80 et ont vu un crocodile. Il y était plusieurs scientifiques, là, 50 pieds de long. C'est du crocodile. C'est du crocodile. Je sais pas s'il y a un autre nom pour ça, le rendu là. Hein? C'est du croco. Hein? C'est 50 pieds. C'est... Il n'y avait pas avantage à dire ça. C'est un paquet de scientifiques qui sont en groupe et qui voient ça, qui observent ça. Parce qu'évidemment, dans une région où il n'y a pas d'ennemis, où c'est immense comme parc national, c'est protégé. Alors, quand tu arrives d'un endroit comme ça, il peut permettre une croissance de certains animaux parce que c'est lézard. Donc, les lézards continuent toujours à grandir. Mais est-ce que c'est un crocodile ici? Mais le mot est écrit Léviathan, tout simplement. Il se retrouve à quelques occasions dans la Bible, 3-4 fois. On va laisser ici Léviathan et laisser le contenu nous le décrire. Il dit, est-ce que tu vas le prendre à l'hameçon? Ben effectivement, le crocodile, il est plus pogné à l'hameçon. C'est un fil de fer. Là. On le pogne. Il y a de la chasse au crocodile. Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplication? Oh, s'il vous plaît, laisse-moi aller. Ben non, il est tellement gros puis puissant, il ne fera jamais ça. Te parlera-t-il d'une voix douce? S'il vous plaît, laisse-moi tranquille. Fera-t-il une alliance avec toi? On va faire une entente, tu me laisses aller, puis garde, moi je vais faire ça, pour devenir à toujours ton esclave. Il va-tu se soumettre à toi, lui? Mais non. Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau qu'on met dans le cage? Tu sais? Attacheras-tu pour t'amuser, puis le donner à ta fille pour qu'elle s'amuse avec comme animal domestique? Ben non. Ben non, effectivement. Les Léviathans, on fera pas ça avec. Les pêcheurs, en trafiquent-ils? Y a-t-il une contrebande de Léviathan? Ben non. Les partages-t-il entre les marchands? Couvres-tu sa peau de dards et sa tête de harpons? Dresse ta main contre lui, voir, et tu t'aviseras de plus jamais l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente à son seul aspect. N'est-on pas terrassé ou terrifié? Il dit, c'est une grosse bête qui fout les jetons pas à peu près et personne n'est capable de l'attraper. C'est quoi ces animaux-là, avant qu'on aille plus loin un peu? Possiblement que Behemoth est un dinosaure qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ça correspondrait. C'est possible. Je ne dis pas que c'est l'absolue interprétation à faire, mais plusieurs créationnistes vont dans ce sens-là. Vous savez, il faut se rappeler ici que Job ne vit que 300, 400, 500 ans après le déluge. Tous les animaux ont traversé le déluge, mais ne vivent plus aussi longtemps, tout comme ils ne vivent plus aussi longtemps les humains après le déluge. Job fait partie de ces hommes qui sont dans les quelques siècles qui suivent le grand déluge, dont encore certains aspects de l'âge glaciaire sont restés, certains aspects des animaux grands qui sont restés, comme il y a des gens aussi qui vivent très longtemps. Et vous savez, on est en train de déterrer, il y a une vingtaine d'années, un animal comme ça, 150 pieds de long, en Alberta. Immense, 100 tonnes, jusqu'à 150 pieds de long, cet animal-là, de bout à bout, celui qu'on déterrait il y a une vingtaine d'années en Alberta. 20 pieds, jusqu'à 20 pieds, les jambes, 50 pieds, jusqu'à la hauteur de sa tête, jusqu'à 50 pieds. C'est quelque chose. Et, vous savez, fait intéressant, je vous mets une citation ici d'une dame qui a écrit un livre sur la cryptozoologie. Les cryptozoologues sont des gens qui croient qu'il y a des créatures qui existent encore aujourd'hui, qu'on croyait éteintes, et qu'on va très peu d'endroits dans le monde, et qui les recherchent. Et évidemment, même s'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils sont évolutionnistes, n'adhèrent pas à toutes les idées d'une extinction totale de tout, mais qu'il y a encore des bêtes ici et là qui existent dans des endroits du monde reculé, etc. Et elle dit ceci, intéressant, elle dit « Aucune théorie, combinaison de théories peut d'une manière satisfaisante expliquer ce qui causa la disparition des dinosaures et malgré cela laisser les crocodiles et autres reptiles en vie. » Plus tard, elle dit, en parlant de recherche de spécimens vivants de dinosaures aujourd'hui, elle dit, « Encore, nous devons nous rappeler, la science n'a pas toutes les réponses. Et il est stupide de croire que quelque chose n'existe pas seulement parce que nous n'avons pas vu une espèce ou un spécimen. » Ce qu'elle souligne, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous... Dans le monde marin qui peut aller jusqu'à 8 kilomètres de profondeur, la gigantesque mer qu'on a à travers le globe et qu'il y a des animaux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, et des endroits du globe aussi ou encore où ils peuvent être au milieu de l'Amazonie, au milieu de ce marécage immense du Congo, qui est un grand... En fait, il y a deux grands parcs nationaux là, ici, qu'il y a des animaux qu'on ne voit plus, mais qui peut-être existent encore. C'est ce qu'il est en train de dire. Et qui n'ont peut-être pas des millions, nécessairement des millions d'années, pour nous qui croyons dans une Terre jeune et dont la science n'a pas prouvé non plus la longévité de la Terre. Vous savez, c'est assez, je vais vous donner un exemple ici, bien simple. Au milieu de ce marécage, il y a un animal que des missionnaires ont entendu plusieurs témoignages. Des missionnaires qui sont arrivés dans les années, fin des années 1800 et qui avaient les histoires de Mokolomimbi. Pour moi qui les raconte, c'est des gens même pas chrétiens qui racontent ces histoires-là, et des gens chrétiens, des missionnaires qui ont rencontré évidemment les hommes et les femmes qui vivaient à cette époque-là, dans les années 40-50, et qui connaissaient, ils regardaient un livre d'images, là, en regardant des animaux, puis là ils voyaient un brontosaure, puis ils disaient « Ah oui, Mokolomimbi! Non, ça n'existe pas, tu t'es trompé. Oh oui, nous on a un dans les marécages, si ça existe, on l'entend hurler la nuit, puis c'est un animal qu'on peut pas pogner, et... Mais il n'est pas 150 pieds de long, il est 25-30 pieds de long. Il aurait survécu possiblement. Tellement que c'est important qu'il y a des recherches qui ont été faites par des évolutionnistes spécialisés dans les années 80. Ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour lui faire des recherches parce que c'était crédible pour eux. Et ils ont pu constater plein de gens qui ont eu des contacts et même, entre autres, un animal qui avait été tué et dont un missionnaire a eu des contacts avec ces hommes-là qui ont participé à tuer un de ces bêtes-là dans les années 50. Et de ceux-là sont venus des gens qui se sont convertis, qui ont pu raconter l'histoire, vérifier tout ça. Et il y a tellement de récits que pour eux, c'est pas l'ombre d'un doute que ça existe. Mais est-ce qu'il y a un danger qu'il faudrait mettre une place pour traverser l'autoroute? Attention, des dinosaures à l'affût, faites attention. Non, il n'y a pas de danger. Hein? Ni là-bas non plus, parce que personne ne s'en va dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que tu vas juste là, si tu es spécialisé, tu t'y connais pour aller pour la chasse, puis tu reviens parce que c'est trop intense de moustiques et c'est pas un endroit où que les gens habitent. Ils vont là pour la chasse dans les saisons et reviennent dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, ben une réserve naturelle. C'est immense, c'est gros comme un État complet des États-Unis. Et on a des récits comme ça de gens évolutionnistes, tout comme des chrétiens qui ont été là-bas, des missionnaires qui... Ça existe encore, certaines bêtes comme ça. Est-ce que c'est possible que c'est une bête qui ressemble quelque part à quelque chose comme ça, que Job se fait montrer, considéré évidemment comme le brontosaure, l'animal le plus gros qui a existé, dont les ossements sont les plus énormes, tout à fait possible. Il dit, c'est la tête, c'est le pic de toute la grosseur des animaux. Puis effectivement... marchant sur les montagnes autant que dans les rivières, pas capable de se déplacer juste avec de l'eau qui pousse dessus, il est capable de se tenir là avec le poids, la grosseur et la manière qui a été faite par Dieu. Un chef-d'œuvre de Dieu. Et il utilise cet animal-là à Job pour lui faire une leçon ici. T'es-tu capable, celui que j'ai créé comme toi, mais qui est un chef-d'œuvre, t'es-tu capable de le maîtriser, de le gérer? C'est ma création, tu as des conseils à me donner. Écoute, montre-moi ce que tu vas faire avec lui. Es-tu capable de le gérer? Évidemment, ben, c'est pas possible. Il est dépassé. Et puis, ensuite, il s'en va vers... Et en passant, on retrouve justement des preuves que l'homme a vécues avec certains animaux comme ça qui sont dits préhistoriques, etc. On retrouve dans des cavernes d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, selon les différentes évaluations des évolutionnistes ici, des dessins comme ça écrits dans des grottes de des humains qui ont côtoyé, qui ont vu des animaux qui dessinent. Tu ne dessines pas des animaux qui n'existent pas. Les gens dessinaient un tigre, dessinaient tout ça. Puis tout à coup, il y avait un animal qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui, mais qui a existé à une certaine époque. Et des témoignages de l'homme qui a marché avec le dinosaure sur Terre, il y en a un peu partout dans le monde. Mais évidemment, dans le milieu évolutionniste, on veut parler de préhistoire, ce qu'on veut parler ici d'extinction, c'est quelque chose qui vient attaquer la théorie d'évolution, qui met une image d'une Terre beaucoup plus jeune que ce qui est prétendu. Et donc, on discarte ça, on essaye... Mais il y en a plein, là. Je pourrais vous raconter ça pendant une heure de temps, mais je ne ferai pas ça ce matin, bénissez le Seigneur. On va continuer. Maintenant, Léviathan. C'est-tu un dragon? Vous allez comprendre un peu plus loin, il parle de cracher du feu au chapitre 41. Ben voyons donc, Joël, la Bible qui parle d'un dragon qui crache du feu. Évidemment, hein, c'est un dessin artistique, une image de l'imagination humaine de comment pourrait ressembler un dragon, évidemment. Puis, évidemment, juste de dire le mot dragon, tu viens de perdre toute ta crédibilité. Parce que dragon, c'est quoi? Ben, ça vole, c'est dans les films, ça crache le feu, ça crache du feu comme Godzilla, hein? Puis etc. Et les chevaliers ont peur de ça, mais c'est des animaux mythiques, imaginaires. C'est pas des vrais animaux. Et on les dépeint tellement dans les films aussi, de façon aussi mythique et imaginaire qu'on peut à peine imaginer que ça pourrait être quelque chose qui était un dinosaure dans le passé. Parce que c'est devenu une image de, vraiment mythique quand on parle de dinosaure. Et quand le mot dinosaure lui-même aussi paraît que fantaisie, parce qu'il est utilisé que pour la fantaisie. Maintenant, je veux juste vous réaliser quelque chose ici. Ah, en plus, il bouge. Il bouge, en plus. Vous êtes gâtés à matin, là. Le mot dinosaure, vous savez, ça existe juste depuis 180 ans. Ça n'existait pas avant. Ça a été inventé par Richard Owens, anatomiste spécialisé là-dedans. Ils ont commencé à mettre des os ensemble, puis en voyant ça, ils ont dit « Ah, terrible lézard! » C'est ce que veut dire le mot « dinosaure »,« terrible lézard ». Parce qu'évidemment, en voyant la grandeur, puis ils se sont trompés dans l'anatomie, ils ont rectifié ça avec le temps, ils se sont améliorés à faire les casse-têtes de ces ossements qu'ils trouvaient. Mais jusqu'à 100, il y a 180 ans, le mot « dinosaure » n'existait pas dans nos vocabulaires. Il a été inventé en anglais il y a 180 ans. Donc, si tu t'enfargeais sur un ossement de dinosaure, comment tu l'appelais il y a 200 ans? Ben, si vous retournez dans un livre sur les animaux il y a 500 ans, vous allez retrouver parmi les espèces le mot « dragon ». C'est un mot générique qui remplace évidemment le mot « dinosaure ». On pouvait parler de dinosaures qui crachent le feu, d'un dinosaure qui vole, ou d'un dinosaure terrestre, un dinosaure de la mer, mais on utilisait le mot « dragon » à place. C'est le même terme qui existait il y a 500 ans, puis il y a 2000 ans. Et quand la Bible a été traduite en grec, ben c'est le mot qu'on a utilisé pour traduire 30 fois le mot « tanine », qui est un mot hébreu qu'on a dans l'Ancien Testament, qu'on traduisait « dragon ». Un animal qui a existé, que Dieu a créé, qu'on retrouve dans Genèse, chapitre 1, dragon de mer, dragon de terre, dragon qui vole, dinosaure, tout simplement. Remplacer le mot dragon par dinosaure, c'était le mot antique qu'on utilisait il y a plus de 200 ans. Et c'est pas moi qui l'invente. Vous allez regarder la traduction latine de la Bible par Saint Jérôme et que l'Église catholique a utilisée pendant des années, en l'an 400. Et on va voir le mot draconis, draconis en latin, utilisé une trentaine de fois pour traduire le mot dragon du grec. Et le mot tanine dans l'Ancien Testament en hébreu. Toute la même chose. Et dans vos traductions les plus récentes, ça a été enlevé pour la plupart, mais on va retrouver dans Louis II, dans les plus vieilles versions encore, peut-être sur une trentaine de fois, 17, 15 fois le mot dragon. Mais qui finalement cultive l'idée que la Bible va parler des dragons comme des animaux mythiques dans les légendes du garatique, les légendes égyptiennes, les légendes des peuples autour, alors qu'il parle d'un animal qui a existé, que Dieu a créé, et qui évidemment n'est pas comme nos fantaisies, une sorte de mélange hein, de serpents volants, un mélange de T-Rex, une tête plus grosse, puis il y a tout un amalgame ici d'un animal mythique, là, mais qui en réalité... C'est un animal fantaisie d'un dragon, tout simplement, qui était en réalité, à nos termes aujourd'hui, un dinosaure, tout simplement. Et il prend une de ces grandes bêtes, et le reste de la description va vous montrer pourquoi c'est plausible tout cela. Je vais juste vous lire encore ce qu'il dit après ça. 41, lisez avec moi. « Nul n'est assez hardi pour l'exciter. » Il n'y a personne qui est assez nono pour aller l'écœurer, en bon québécois. OK? « Qui donc me résistera en face? » C'est quoi le point de Dieu? De personne d'assez fou pour aller avec un bâton dire « Nya, 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 nya. » Comment est-ce qu'un être humain pourrait tenir devant moi? Est-ce que vous comprenez la leçon? Si Job, c'est un animal mythique, là, ça n'a pas vraiment grande valeur comme leçon. Job, j'ai créé l'animal mythique. Oui, c'est un mythe, là. C'est pas un vrai animal. Ici, il lui montre des animaux qu'il connaît, qu'il a vus. Sinon, ça ne serait pas pertinent. Il vient de parler de 12 animaux qu'il connaît toute la gang. Pourquoi tout à coup, il arriverait ici avec des animaux qu'il ne connaît pas pour faire une leçon sur Dieu à partir de des animaux imaginaires, légendaires? Ça n'a aucun sens. Il dit, va l'écœurer voir. Fais le fou assez pour voir qu'est-ce qu'il va te faire. Mais toi, tu penses que vous pouvez venir avec moi avec un bâton comme ça puis me titiller, moi le créateur? Vous ne seriez pas fou pour faire ça à cet animal-là, mais moi, vous allez me narguer. Est-ce que vous comprenez la leçon? Qui serait assez fou pour faire ça? Et pourtant, parfois, on tombe dans cette folie. Il continue. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. À qui je dois une dette? Sous le ciel, tout m'appartient, dit Dieu. Tout m'appartient. J'ai tout créé. Tout est signé en bas de la page. Dieu. Toutes les chefs-d'œuvre sont marqués au fer. Dieu. comme propriétaire, comme concepteur, comme fabricant. Je vais encore parler, dit Dieu. OK. Je suis sûr que Job rendu là, il y avait le Takeba. Hein? Je vais encore parler de ses membres, du Léviathan, de sa force, de sa beauté, de sa structure, qui soulève son vêtement, qui pénètre dans sa mâchoire, qui ouvre les portes de sa gueule, autour de ses dents habite la terreur, ses magnifiques et puissantes boucliers, parce qu'il y avait comme une sorte un peu de sur son corps, un peu comme des écailles de protection qu'on retrouve souvent chez beaucoup d'animaux reptiliens. Ils sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent les uns contre les autres à l'air, ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrasent et se saisissent, demeurent inséparables. C'est-à-dire ici, toutes ces écailles sont tellement liées, fort ensemble, bien faites, que c'est pas possible de passer à travers. Même l'air passe pas à travers pour le protéger. Tellement qu'il est bien fait pour se protéger de toute attaque humaine, de toute attaque d'animal qui serait fort, qui est impénétrable. Il continue. Ses éternuements, au verset 9, font briller la lumière, ses yeux comme les paupières de l'aurore. On voit ici une image, mais là, il dit, des flammes jaillissent de sa bouche. OK? Des étincelles de feu s'en échappent. Là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se dit, ben voyons donc, t'es en train de lire la Bible, un dragon qui crache le feu. OK, quelle église que je suis ici ce matin, là? OK, église baptiste, ouais, OK. Hein? Ouais. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons et sa gueule lance la flamme. C'est pas moi qui le dis, là, c'est la Bible, les amis. Puis c'est pas Job qui le dit, c'est Dieu qui le dit à Job, qui parle d'un animal que lui connaît, qui semble pouvoir cracher du feu. Et là, vous dites, ben voyons donc. Et là, j'ai lu un exemple de comment ça pouvait être un langage poétique pour décrire comment que lorsque le crocodile sort de l'eau et qu'il souffle fort parce qu'il a fait 5 minutes sous l'eau, que ça fait ça devant le soleil quand il brille. J'en dirai pas plus. Pas très convaincant. Bien beau mettre des images, puis de poésie, là, mais là, ici, là, de feu brûlé, un chaudron qui bouille, des étincelles, puis flamme 2 fois. C'est dur à passer à côté. Comment ça se peut, tout ça? Comment c'est possible? Permettez-moi d'un peu vous aider et nous aider ici à réfléchir sur cette question-là de dragon même qui irait cracher du feu. Vous savez que le mécanisme, Dieu l'a créé. Dieu a créé le mécanisme dans une bestiole, entre autres une des coléoptères qui s'appelle coléoptère bombardier, cette capacité d'avoir à l'intérieur des produits chimiques qui sont séparés l'un de l'autre, mais qui s'y étant ensemble font un bouillonnement, un feu, l'équivalent à 212 degrés. Ça brûle. Et il utilise ça, c'est ce petit coléoptère-là qui fait à peine 1 centimètre, un petit peu plus qu'un centimètre. Cette capacité d'avoir des inhibiteurs, d'avoir des neutralisateurs pour permettre que tout ça puisse sortir sans qu'il se brûle là derrière. C'est ça l'idée, hein? C'est que ça sorte, ça brûle ton adversaire, mais pas ton derrière. Hein? Et à travers des millions d'années d'évolution, évidemment, quelques-uns se sont explosés ici et là, mais finalement, il y en a un qui a réussi à faire toute la collection à travers des millions d'années d'évolution, à avoir les deux affaires, le bon produit pour canceller l'expédition sans se brûler derrière et mourir explosé. Évidemment, l'évolution ne peut pas expliquer ça, comment qu'une bête peut avoir tous ces produits chimiques-là, la coordination, le système, le lâcher au bon moment, etc., pour brûler la fourmi qui va l'attaquer et la brûler à 212 degrés. C'est un phénomène extraordinaire. Et c'est signé, j'aimerais l'entendre. Amen. Hein? Dieu qui fait cette complexité-là chez un petit animal qui lui permet de se défendre. Mais si tout ça n'est pas bien orchestré parfaitement, pile poil, dans la reproduction d'un bébé, pour qu'il ait la même capacité, il va exploser puis mourir, et ça va être la fin de la race. Et pourtant, Dieu permet qu'il soit créé parfaitement et qu'il se reproduise parfaitement et reproduise la même capacité. C'est incroyable. Et vous savez, il y a des ossements d'animal comme les T-Rex et d'autres, dont on a trouvé des poches dans les os, justement. Ils appellent ça, quand ils les trouvaient, ils appelaient des ossements avec des dinosaures avec des poches d'air ou des trous ou des cavités vides dans les os, qui se demandaient à quoi ça pouvait servir. Et plusieurs ont émis l'hypothèse, justement, de cette capacité de certains qui avaient la capacité de pouvoir cracher le feu pour se défendre. Cracher soit le feu ou soit cracher des produits chimiques ou une combinaison de produits qui brûlaient l'adversaire pour, évidemment, se protéger lui-même. Et quand on regarde le coléoptère, comment ça se fait d'une manière excessivement incroyable, c'est tout à fait possible que c'est ça qui explique des poches où il y avait des produits chimiques et un mécanisme que Dieu a créé chez ces animaux-là pour le faire. Et clairement que si l'être humain, dans tous les pays du monde, il n'y a pas juste 100 ans ou 200 ans, avant que la TV existe et qu'on voit tout ça à la TV, là, toutes les cultures du monde ont ces histoires de ces dragons antiques qui sont capables de cracher le feu, qui sont capables de voler d'autres qui sont retrouvés ici. Évidemment, il n'y en a plus beaucoup. Puis quand on retourne à l'époque de Job, où on est 300, 400, 500 ans après le déluge, il y en avait beaucoup. Mais comment est-ce qu'un homme comme, justement, Nimrod est devenu un grand chasseur devant l'Éternel? Il y avait de ces grandes bêtes qui existaient à l'époque, sur lesquelles faire pas mal de viande, gros des burgers, avec une bonne tuerie, là, hein? Et comment ça, on retrouve ça dans toutes les cultures du monde, ces histoires de dragons cracheurs de feu, sans qu'ils soient nécessairement en contact les uns avec les autres? Qu'on retrouve de ces dinosaures qui sont peinturés sur des murs il y a 600 ans, il y a 1000 ans, il y a 4000 ans, dans des cavernes, un peu partout dans le monde, les mêmes histoires un peu partout, ça témoigne d'une histoire commune, ça témoigne d'une historicité commune, d'une mémoire collective de ces animaux-là qui ont existé et qui sont devenus fantaisiques le temps, mais qui étaient tout simplement des dinosaures, c'est tout. Et que Dieu a créé et que Dieu utilise comme leçon de choses pour enseigner quelque chose de précieux et important à Job, mais également à nous. Et je ne veux pas trop m'étirer là-dessus. Je crois en avoir dit suffisamment pour dire tout simplement ici que la Bible en parle. C'est un fait historique qu'on retrouve un peu partout dans toutes les cultures. Le mécanisme, en plus, a été créé par Dieu et qu'on le retrouve dans cette bestiole, entre autres. Et de plus aussi, certains dinosaures avaient cette possibilité par la manière dont ils ont été créés et dont on reste avec des souvenirs un peu partout dans le monde. Regardez deux textes bibliques, il y en aurait 30, je ne le ferai pas, juste ces deux versets-là. Mais déjà, Genèse chapitre 1, qu'est-ce qu'on dit? Dieu créa les grands taninim. Alors, ces grands dinosaures qui sont traduits, ces grands dragons. Et tous les animaux vivants, c'est Dieu qui les a créés. Ces dragons, ces grands dinosaures. Plus tard, Job, on lit, « Suis-je une mer, un monstre marin, un dragon marin? » C'est le mot qui est là, « tanine » qui est là, qu'on met « monstre » ici, mais qu'en réalité, on peut traduire « dinosaure marin » pour que tu établisses des gardes autour de moi pour essayer de me contrôler mon espace. Est-ce que je suis un animal comme ça que tu essaies de contrôler parce que je suis dangereux? Et on va parler souvent le mot « chacal » qui est utilisé dans des cavernes, mais qui est le mot « tanine » qui est encore là, « dragon » dans « dragon volant » est mentionné aussi. Ça se retrouve dans la Bible. Parce qu'évidemment, Dieu les a créés. C'est pas surprenant. Ça appartient pas à l'évolution, ça appartient pas à l'athéisme, ça appartient pas à la science, ça appartient à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, Shaddai, dans le livre de Job, que tout crée ça, à qui on doit tout et qui utilise ces animaux-là comme leçon de choses. On va le retrouver, par exemple, sur le drapeau du pays de Galles. Ils ont juste inventé ça, ils ont jamais rencontré ça il y a 2000 ans. Ils ont juste inventé ça sur le drapeau. Et on retrouve des histoires de Saint-Georges qui combat le dragon, évidemment plus petit, à travers le monde entier. On va retrouver, par exemple, chez pas loin, à 150, peut-être 100 kilomètres à l'ouest de la ville de Mexico, on a retrouvé ces figurines qu'on appelle d'Acomboro, c'est la ville où ils ont été trouvés, des milliers de figurines d'animaux qui ont été construites, qui ont été carvées, qui ont été... sculptés, merci pour votre anglais, qui ont été sculptés de plusieurs animaux, ça date de 2-3 millénaires, considérés de l'ère précolombien. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Sur les 30 000, au moins 2 000 queues qui seraient liées à des images de dinosaures. Sculpter un animal que tu ne connais pas il y a 3 000 ans, imaginaire, ou est-ce que l'homme a vécu avec des dinosaures? Ça existait il y a 3000 ans. Ça existait il y a 2000 ans, mais il y en avait moins. Ça existait aussi il y a 1000 ans, mais il n'y en avait plus beaucoup. Ça existait très peu, on en voyait très rarement il y a 500 ans, mais on en mentionnait encore. Et il y a 200 ans, personne ne se rappelait d'avoir vu ça, personne n'a été témoignage. Et quand on a trouvé des os, tout à coup, dit terrible lézard. Dinosaure. Aussi simple que ça. Puis aujourd'hui, on utilise ce dinosaure créature de Dieu pour éloigner les gens de Dieu, alors que c'est une créature créée par Dieu, à la gloire de Dieu, et que Dieu utilise pour faire des leçons ici, et je vous donne ici quelques exemples. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? L'attitude arrogante naturelle de l'être humain est confrontée dans les premiers versets. Il mentionne Béhémoth et Léviathan comme exemple. T'es-tu capable de gérer avec le chef-d'œuvre de Dieu? T'es-tu capable de gérer le Léviathan, puis le dompter, puis le compte? Puis t'es-tu, vas-tu le donner à ta fille comme animal de compagnie? Ben non, mon Job, ça arrivera pas. Parce que c'est trop gros. Tu serais même pas assez fou pour aller l'écœurer avec une perche. Mais toi, tu viens douter de ma justice. Et il est en train de dire dans les versets qui vont suivre, la création inspire la crainte et le respect envers son Créateur. La création inspire la crainte et le respect envers son Créateur, aussi simple que ça. Et il répète, et je vous lis ici les derniers versets avant d'aller à la conclusion. Regardez avec moi. On continue à partir du verset 20. Il ne voit pas dans la massure qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. C'est assez d'envoyer des flèches, là. Il va rire. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse. Tu sais, les herses, c'est des portes pointues là, pour protéger, là, qui étend sur le limon. Il fait bondir le fond de la mer comme une chaudière. Il agit comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend l'aspect de la chevelure d'un vieillard pour montrer le sillon qu'il laisse dans l'eau derrière lui. Sur la terre, nul n'est son maître sur la terre, mais pas dans les cieux. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain ce qui est élevé. Ce qu'on regarde, nous, comme grands, il regarde comme c'était rien, comme c'était une fourmi. Il est le roi des plus fiers animaux. Et qu'est-ce qu'il fait, cet animal? Il s'attaque à l'arrogance humaine. Comment tu oserais lever le nez sur moi quand tu ne lèverais même pas le nez sur une de mes créatures, aussi grande, aussi puissante? Comment oses-tu? J'aimerais vous lire ici une conclusion que j'ai appréciée de monsieur, dans le commentaire du chercheur de l'Ancien Testament. Il dit, « Nul n'égalait cette créature qui n'avait peur de rien, alors que toutes et chacun avaient peur d'elle. Même l'homme le plus élevé, le plus fier, tremblait de peur devant cet animal. Ne pouvant être capturé, cet animal était le roi des plus fiers animaux, et aussi des hommes. Alors que Job ne pouvait humilier un hautain, et en regarder, et le regardant avec mépris, le Léviathan, tout en étant un animal, pouvait y parvenir, lui. L'ultime déclaration de Dieu, selon laquelle le Léviathan regarde avec dédain ce qui est élevé et domine le plus fier, aurait pu rappeler à Job que son orgueil devant Dieu, le créateur de cet animal, était à la fois, d'être orgueilleux devant Dieu. Le créateur de cet animal est à la fois hasardeux et dangereux. Ainsi, dans la seconde discours, Dieu lançait un défi à Job pour qu'il assujettisse ces monstres, tâche évidemment impossible qu'il voulait maintenir l'ordre dans l'univers créé et gouverné par Dieu, par exemple. Job ayant craint que Dieu ne puisse... Job ayant craint que Dieu ne puisse pas faire face au mal, Dieu lui montrait qu'il n'était nullement qualifié pour contrôler et surmonter le mal à sa place, car il ne pouvait même pas maîtriser ses animaux, et même si vous les considérez symboliques. Il permet au mal et au chaos de dominer pour un temps, tout comme il avait permis à Satan dans cette histoire de mettre Job à l'épreuve pour un temps, avec des limites, avec un encadrement et un but spécifique. Et Dieu a atteint son but. L'homme ne peut vaincre à lui seul, bien qu'il soit de simples créatures comme lui. De même, l'homme ne peut venir à bout du mal, même s'il était symbolique. Seul Dieu peut y parvenir. Par conséquent, critiquer comme Job les voies de Dieu sur le plan moral, comme si Dieu était incompétent ou même mauvais, était totalement absurde et injustifié. Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Suis-je l'égal de Dieu? C'est la question de Dieu. Est-ce que je pense que je peux faire face à Dieu puis être égal à lui pour le confronter à des choses? Suis-je capable d'expliquer les mystères de ces grandes créatures, chefs-d'œuvre de Dieu, que Dieu a créées Ou même, suis-je incapable de dompter le plus grand, le plus fier de ces animaux? Et si ce n'est pas le cas pour chacune de ces questions, bien, c'est simple. Respecte Dieu qui a tout créé et fais-lui confiance. Ah, c'est facile à dire. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça affecte toutes les sphères de notre vie? Job n'osa pas défier, évidemment, les deux créatures par peur de mourir, mais il osa mettre Dieu au défi, leur créateur. Job, qui est moi aussi, ne peut contrôler ces grandes bêtes, mais il tente de dire au créateur quoi faire. Je tente de lui donner des conseils sur ma situation, sur une chose qui se passe dans ma vie qui est difficile, et sur ses décisions souveraines. L'arrogance humaine ici est soulignée, comme Paul le souligne dans Romains chapitre 1. Et qu'on se laisse tenter. Et qu'on devient ingrat envers Dieu. Qu'on commence à juste voir les poussières qui nous dérangent. Et qu'on ne voit pas tout le ménage que Dieu a fait. Qu'on ne voit pas toute sa justice, sa bonté, son amour. Mais qu'on regarde juste s'il n'y aurait pas une poussière à quelque part qui m'achale, que moi je vois. Et que je maximise dessus. Ou bien tout ce que Dieu fait, les yeux sur un détail. Regarder vers le Créateur, la création de Dieu et la complexité de toute créature vivante nous rappelle comment notre Dieu est grand. Cela m'aide aussi à résister à la tentation du diable de tenir tête au Créateur, de désobéir avec l'illusion en tête ou le doute que Dieu semble subtilement, comme Satan nous le suggère, mettre des doutes sur sa bonté paternelle, qui sème le doute sur le fait qu'il veut me priver de plaisir. Par les règles qu'il met, il veut me priver. Dans ce que les autres ont l'air d'avoir tellement du fun, ils n'ont pas de l'air privé, eux autres, par la loi de Dieu. Est-ce que Dieu me prive de plaisir? C'est ce qu'il veut faire. Et que le monde, eux autres, peuvent avoir vraiment du plaisir que nous, on ne peut pas. Ou se centrer sur nos impressions humaines limitées. Plus je m'approche de Dieu, que je reste en silence devant lui et que je suis en relation devant le trône de grâce avec Dieu, plus je me rends compte de ma propre nature pécheresse, de mes limitations, et qu'il mérite toute ma confiance devant le fait que j'en sais si peu. Même, vous savez, le meilleur des hommes, le meilleur des femmes est capable du pire et de la pire des fautes. J'aimerais vous déclarer ceci en terminant. Cette crainte respectueuse affecte toutes les sphères de nos vies sans exception. J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher. Et de l'homme qui a le souffle de vie sur terre. Si Dieu est le tout-puissant créateur qui crée les animaux et l'univers, je devrais lui soumettre ma sexualité, par exemple, ma moralité. Car c'est lui qui a créé tout cela dans le but que la sexualité soit utile de façon à en profiter et de ne pas faire de mal aux autres ou à soi-même, mais d'y avoir un plaisir sans culpabilité. Qui me donne de faire cela? Le Créateur qui a créé la sexualité. Le Créateur qui sait donner les paramètres pour l'utiliser au maximum de façon sans regret, sans honte, sans faire de mal à personne. Deuxièmement, il mérite donc aussi que je lui soumette mon temps, mon argent. Car c'est lui qui me donne la santé, qui me confie, qui me donne un travail, qui me permet de travailler chaque jour. Et l'intelligence pour gérer ses sous. Et d'utiliser le temps et l'argent de façon à ne pas regretter ou ne pas déshonorer Dieu. Si je comprends que Dieu est créateur, il va m'aider à comprendre comment gérer mon argent et mon temps et trouver l'équilibre dans tout cela. Troisièmement, il mérite aussi que je dépose sur ses épaules larges, fortes et fiables, toute forme d'inquiétude et de préoccupation qui me dépasse et qui me mine le moral. Mon créateur qui est au contrôle de tout, je peux lui confier ce qui est trop pesant pour mes épaules. Cette situation de couple, cette culpabilité passée ou cette hantise, ce trauma passé, que je n'arrive pas à soigner, qui me crée au présent toutes sortes d'émotions, lui peut le prendre parce qu'il est créateur, parce qu'il m'a fabriqué. Lui peut prendre ce qui m'écrase et me soulager de ce poids-là. Lui. Pas une stratégie. Pas juste des rencontres avec Pierre-Jean-Jacques. Pas juste des bons livres à lire, c'est toutes des bonnes choses. Lui, si je n'ai pas lui pour me soulager, ce c'est toutes des solutions temporaires. Lui, par son Fils Jésus, peut me soulager de toutes ses préoccupations. C'est pour ça qu'il dit, moi mon joug est doux léger, je le porte avec toi. Jésus dit, je le porte avec toi, puis c'est moi le plus fort. Fait que tu n'as pas à porter ce poids-là. Il est léger parce que je suis avec toi. Tu n'as pas à le porter tout seul. Tu n'as pas à le régler tout seul. Mais si Dieu n'est pas créateur, qu'il n'a pas créé Behemoth, qu'il ne gère pas Léviathan, il ne peut pas rien faire de tout ça. Vous comprenez? C'est parce qu'il les a créés, c'est parce qu'il les contrôle, c'est parce qu'il connaît tous les détails de leur fabrication. Et que celui qui craint cet animal-là devrait craindre Dieu parce que Dieu l'a créé, que tout à coup, il a la puissance aussi de nous donner le repos devant ces inquiétudes incalculables avec lesquelles on lutte chaque jour. Ces inquiétudes pour le travail, sur les contrats qui vont venir, sur ma relation brisée avec un enfant, avec un voisin, avec un membre de la famille qui m'a rejeté. Ma peur de tenir ferme dans une situation morale au travail à cause de ma foi, puis que j'ai peur de ce qui va arriver. C'est le Créateur. Quatrièmement, il mérite aussi que je lui confie mes soucis de couple, mes défis au niveau du travail que je viens de mentionner. Il mérite aussi la confiance pour ma santé. Peut-être tu luttes aujourd'hui avec des soucis de santé. Peut-être même le cancer. Des inquiétudes de des tests qui s'en viennent. Toutes sortes de préoccupations de santé pour lesquelles tu es à terre, tu es écœuré en bon québécois de souffrir, de te sentir moche le matin quand tu te lèves, incapable de travailler, de te sentir incapable de prendre soin des enfants comme tu voudrais, de pouvoir aider tes parents comme tu voudrais parce que ta santé est limitée. Et ça te pèse. Et pourtant, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comment est-ce possible? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien, je ne sais pas ce que Dieu veut faire, mais Dieu sait ce qui a besoin de grandir dans ma vie et comment m'équiper à travers des défis à venir. Qui sait si ce que je vis présentement va m'aider à faire du bien à quelqu'un d'autre plus tard et changer ma perspective de la vie qui va m'aider pour le reste de ma vie. D'avoir un ministère que je n'aurais pas autrement. De comprendre quelque chose sur Dieu que je n'apprendrais pas autrement, mais qui va m'amener un grand progrès spirituel. Qui va fortifier ma foi, mais je dois passer par ce moment-là pour comprendre une vérité sur Dieu qui m'échappe et que ça doit passer par là. Mais moi, je ne comprends pas. Je voudrais tellement éviter ça. Et pourtant, une fois qu'on l'a passé, qu'on a vécu cette souffrance, on dit, ouais, mais je ne voudrais pas retourner en arrière, avoir la compréhension que j'avais avant. Mais ça a été dur. Oui, ça a été dur. Il y a un pasteur qui me parlait il y a une semaine, il disait, ma femme a le cancer, elle a perdu les deux seins à la fin trentaine. Il avait une belle attitude, il était édifiant. Mais il dit, Joël, malgré tout ce que je te dis, là, je crois en Dieu, puis j'ai fait confiance, puis Joël Maracy, il nous a donné des bontés, etc. Mais cancer sucks. Il dit, le cancer, c'est plate. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plate. La maladie, c'est plate. Mais pourtant, il est capable de bénir Dieu parce qu'il voit Dieu faire des choses, même à travers la maladie, les problèmes de santé. Pourquoi c'est possible tout ça? Écoutez bien, Dieu... L'éternel Dieu, Shaddai, mentionné 31 fois dans le livre, le Tout-Puissant, qui est le Créateur, mérite ma crainte respectueuse. Il mérite toute ma confiance dans toute situation de ma vie parce qu'il connaît tous les intrigues qui m'échappent complètement. Il le mérite. Et quand j'ai pas de réponse, que j'aimerais avoir une réponse, il mérite que je reste en silence et que je lui fasse confiance encore aujourd'hui. Parce qu'il est Tout-Puissant. Parce qu'il m'aime. Et même quand tout part en vrille, je peux me reposer en lui et trouver le repos dans le tourment, sachant qu'il est au contrôle de tout. On l'a chanté tantôt. La force est pour celui qui se confie et se repose en l'Éternel. Hein? On l'a chanté à répétition, ça. Aussi, la voix qui me ramène à lui, c'est lui. C'est sa voix qu'on lit ici, là. C'est tout Dieu qui parle, qui me ramène à lui. Il est tout pour moi. Terminons en chantant et je prie. Père Céleste, oh, qu'on puisse saisir la leçon que tu donnes à Job, de réaliser la grandeur de notre Dieu ce matin. Tu mérites toute notre confiance. Pardonne-moi. Je te demande pardon pour toutes les fois que je mets en doute ta bonté, que je mets en doute que tu sais ce que tu fais, que je te parle durement dans ma colère ou mon arrogance. Merci de m'accueillir quand je le réalise puis que je te demande pardon puis tu ne m'as pas tassé pour ça. Tu n'es pas soupe au lait. Seigneur, tu n'as vu passer des enfants qui ne comprennent pas leur papa céleste. On n'est pas la première génération, Seigneur, ni la dernière. Mais par la grâce de Dieu, on veut être de cette génération qui tombe à genoux, Seigneur. Qui tombe à genoux, qui demande pardon, qui reconnaît, Seigneur. Qui dit, Seigneur, par la grâce de Dieu, avec ton aide, la prochaine fois, je vais faire mieux. Je vais moins chialer, je vais te faire confiance. Jusqu'à temps que tu me donnes un éclairage, jusqu'à temps que tu m'éclaires, que tu me montres que tu veux m'apprendre, Seigneur. Aide-moi à te faire confiance jusqu'au bout. Tu mérites ma confiance, ô Éternel, parce que tu es mon Créateur. Et Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons proclamer et déclarer que tu mérites toute confiance et tout respect de notre part. Il y a peut-être quelque chose ce matin que j'ai besoin de te donner, qui me garde en doute. Qui sape ma joie, qui affecte mon moral, qui m'empêche de dormir. Seigneur, cette chose que tu me montres présentement, ce péché que je garde encore, que je tiens des explications, que je raisonne, que je minimise, Seigneur, accorde-moi ce matin de te lâcher ce péché, de te lâcher cette inquiétude, de t'abandonner cette préoccupation, cette chose qui me mine, parce que tu mérites tout respect et toute confiance, ô Éternel. Nous voulons te le donner ce matin. Et nous voulons te le donner par le nom de ton Fils Jésus, à cause de ce qu'il a fait à la croix pour le pardon de nos péchés et le pouvoir qui nous est donné maintenant d'avoir la victoire dans le nom de Jésus, ton Fils. C'est dans ce beau nom, Seigneur, que nous voulons nous confier et aller avec assurance devant toi et réclamer, Seigneur, nos besoins qu'on a pour surmonter l'épreuve, mais aussi d'attendre et de persévérer dans l'épreuve. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons ce matin. Amen.